Dites, il y a des questions à poser.
La première question est toute simple. Nous avons analysé la prudence en tant qu'une dimension de la personne humaine. Or, dans l'agir moral, la prudence est fondamentale en ce sens qu'elle conditionne l'exercice des vertus de tempérance, de force et de justice. Pourquoi ne parle-t-on pas en philosophie de la personne humaine, de la tempérance, de la force et de la justice comme étant aussi des dimensions de la personne humaine ?
On parle de ceux qui est engagé dans la personne et qui, par le fait même, acquiert une nouvelle dimension. Il est bien évident que la prudence, pour quelqu'un qui n'a aucun sens de la personne humaine, ça existe. Alors, il regarde la prudence comme la vertu qui domine dans sa vie pratique. La prudence, c'est une petite reine. Il ne faut pas faire telle chose, c'est dangereux. Mais ne regardons pas le danger premièrement, on regarde la finalité premièrement. Alors, il y a un danger partout. Un éléphant peut apparaître partout, dans tous les coins de rue, et vous prendre. Et l'éléphant peut être garde-police. Ça peut arriver. Alors, on regarde dans la personne la synthèse. La personne représente quelque chose. C'est mon activité propre, la personne. Je suis une personne. J'essaie de l'être. Oui. Bon. Et j'essaie d'étudier tous les éléments essentiels qui sont dans cette synthèse, la personne humaine. Et de situer leur caractère propre. Alors, je fais l'appel directement à l'expérience, puisque je ne peux pas vous renvoyer dans telle ou telle étude. Mais les études de la personne sont faites surtout du côté de l'intelligence. Et au fond, il y a très peu d'études de la personne qui, justement, regardent toute ma vie morale par la prudence. Par la prudence, la force est engagée. Par la prudence, la tempérance est engagée. Toutes les vertus sont engagées par la prudence. Mais je ne les vois pas directement en tant que vertu. Donc il y a un regard particulier. Matériellement, c'est sûr, j'étudie la personne éthique pour elle-même, mais étudier la personne éthique en vue de la personne et pour la formation de la personne, là, le regard métaphysique intervient.
Est-ce que vous pouvez préciser un peu, Père ?
Le regard métaphysique intervient. Le regard métaphysique, c'est la finalité. L'homme est fait pour contempler Dieu. L'homme est fait pour sauver son prochain. Les deux finalités qui ne sont pas présentes dans l'étude de l'analyse de l'éthique. Tandis que dans la personne, elles sont présentes. Oui.
Je vois pas très bien.
Toute ma vie est finalisée ou par l'amour de Dieu, la contemplation. Bon. Et toute ma vie étant finalisée par la contemplation, prend une modalité spéciale. Toute ma vie est polarisée pour le bien commun. L'amitié crée dans la communauté dans laquelle je suis un climat d'amitié. Ce sont les deux finalités. La personne est toujours ordonnée vers la finalité. Et du fait que cette finalité est présente, elle modifie tout. Je n'agis pas de la même façon si j'agis en contemplatif ou si j'agis pour le bien commun de la communauté. Et il n'y a pas un troisième point. Et c'est le regard de la finalité. Tandis que quand j'étudie ça en éthique, je le vois surtout comme un moyen. Je ne le vois pas rattaché à telle ou telle fin. Opérer, mais quand je choisis ma vie pour être une vie contemplative, bon, tout est modifié à cause de cette fin. Alors la prudence est au service de cette fin. Et elle n'est plus la petite reine. Dans une vie humaine qui ne cherche pas tellement la personne, qui cherche à être tranquille, ma prudence est tout à fait différente que lorsqu'il s'agit de m'engager vers une vie, la vie contemplative ou vers la vie de miséricorde. Vous voyez, il y a un aspect, une finalité qui modifie tout. Et c'est ça qu'on ne voit pas. On ne comprend pas que s'attacher à être une personne, ça modifie nécessairement toute ma vie. Ça n'ajoute pas de vertu. Mais c'est l'exercice de ces vertus qui sont différents. Alors, je comprends très bien que ça met du temps à entrer dans cette perspective, parce que c'est une perspective nouvelle. La personne humaine est étudiée de multiples façons, psychologiquement, mais elle n'est pas étudiée dans son vrai point de vue de finalité, qui finalise tout. Et je ne peux le faire que si j'ai une philosophie qui sait ce que c'est que la finalité.
Enfin, Père, je disais que je ne comprenais pas parce que, lorsqu'on regarde l'éthique d'Aristote, matériellement parlant, il parle
Aristote,
déjà...
Aristote, oh, très peu, de la personne.
Non, pas de la personne, justement. Il parle de l'amitié et de la contemplation comme étant des fins proprement éthiques.
Oui.
Donc c'est à ce niveau que je ne voyais pas la différence entre ce regard d'Aristote et le regard proprement de la philosophie de la personne.
Oui.
Qui parle aussi de l'amitié et de la contemplation.
Oui, oui, forcément, la finalité. Aristote ne parle pas beaucoup, ne parle pas de la formation de la personne. Tout problème de la personne a été pris avec une acuité énorme dès qu'on a vu ces philosophes dans les différents pays, c'est très curieux. Dans les différents pays, il s'élève. Ça a commencé. Ben, ce point de vue particulier du théologien qui a voulu regarder le point de vue de la formation humaine. Puis Descartes est venu, puis Locke est venu, puis dans chaque pays. Alors, j'ai venu en dernier lieu. La formation de la personne aujourd'hui, ça signifie quelque chose. On vous dira, vous n'êtes pas encore assez formé au point de vue personne. Vous vous laissez trop couler. Vous n'avez pas encore pris votre vie en main pour devenir une personne. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout qui est à changer. Orienté vers une fin contemplative, une fin apostolique. Oui. Alors, la prudence, je l'étudie pour elle-même en philosophie éthique. C'est évident. Je présuppose que cette philosophie éthique est acquise. Je n'en reviens pas là-dessus. Et je vois comment cette philosophie de la prudence va, dans son exercice, m'aider à être une personne. C'est même indispensable. Alors, elle transforme tout l'exercice des autres vertus en vue de la personne. Je peux très bien chercher à être fort pour être fort. Je peux très bien essayer d'être fort pour que ma personne humaine puisse se développer. La force est étudiée dans ces deux perspectives différentes. C'est la même chose pour la tempérance. Mais je n'ai pas à étudier la tempérance en étudiant la personne. Voilà la question. Pourquoi n'étudiez-vous pas la prudence comme un élément de la personne? Pourquoi n'étudiez pas la tempérance comme un élément essentiel? Ou la force? Pourquoi c'est la prudence et ce n'est pas la tempérance ni la force, parce que c'était répondre à votre question. Je devrais, pour voir ce que c'est qu'une personne, ah oui, une personne, elle doit être tempérante. Elle doit être forte. Elle doit être... Alors, on va étudier successivement ça. Non, j'étudie la prudence. Et non pas la force. Alors, peut-être que ça vous éclaire mieux pour dire, tiens, pourquoi il n'y a pas un paragraphe spécial de traiter de la personne, un paragraphe sur la vertu de force engagée au service de la personne, la vertu de tempérance engagée pour la personne. Une personne non tempérante qui s'enivre régulièrement devant certaines bouteilles, elle a fait tourner la tête. Ah, est-ce que ça joue pour leur personne? Est-ce que vous pouvez compter sur une personne qui régulièrement, tous les soirs, s'enivre? Ça peut arriver, ça. C'est très braves gens. Ils ont un cœur fait comme une bouteille à champagne. Ça mousse très vite. Ils sont délicieux. Et c'est pas ça que vous regardez pour la personne. Ah, pourquoi? Et c'est la prudence. C'est parce que justement, ces autres vertus ne s'exercent que avec la prudence. C'est la prudence qui leur donne le rythme de vie. Je me corrige de mes intempérances grâce à la prudence. Et c'est ça qu'on oublie. On regarde la tempérance pour elle-même. Oh, alors, je connais des gens qui sont intempérants, qui sont de très braves gens. Et c'est leur exercice par rapport à la finalité que je regarde au point de vue prudentiel, au point de vue personne. La manière particulière dont ils vont atteindre leur personne humaine grâce à telle et telle vertu qui va leur permettre d'être vraiment entièrement personnel dans la force, la tempérance, la justice. Tandis que la prudence a directement, parce que c'est elle justement, qui va modifier l'exercice de la tempérance, l'exercice de la force, si j'ai le souci d'être une personne humaine, de vivre comme une personne humaine. Et les autres vertus n'ont pas ce côté direct vis-à-vis de la finalité.
Une autre question. Vous nous avez parlé de la prudence personnelle. Cette prudence diffère-t-elle par nature de la prudence politique? La prudence personnelle donne-t-elle nécessairement une prudence familiale de père et de mère à l'égard du bien commun?
Oui. Nécessairement.
Nécessairement.
Ben oui, se développe. Je ne peux pas être prudent politiquement si cette politique est uniquement ma petite famille. Ma politique, pour vous, c'est cette grande famille. Mais ce n'est pas entièrement la politique de l'Église. Vous avez un regard particulier sur la politique de la communauté Saint-Jean, dans l'Église. Et ce souci particulier de la communauté Saint-Jean dans l'Église n'est pas la même chose que le souci d'être homme d'Église. Et ça joue énormément. Nous avons une manière de vivre, une manière d'être éduqué, qui n'est pas la même que celle du séminariste du coin, Lyon. C'est le coin. Et vous n'allez pas dire, du fait que vous êtes bien inséré dans la communauté Saint-Jean, vous allez être bien inséré dans la communauté de Lyon. Non, c'est deux choses différentes. Peut-être un excellent père de famille et pas du tout un homme d'État. nous connaissons tous d'excellents pères de famille qui, au point de vue politique, s'ils comprennent qu'il y a une différence. Alors, il y a, au point de vue personnel, c'est bien évident, il y a l'homme qui vit dans telle communauté, il y a l'homme qui dépasse cette communauté et qui vit dans d'autres communautés bien plus importantes. Et certains peuvent être très bons dans une communauté inférieure, et quand ils sont dans une communauté supérieure, ça ne va plus du tout. Ce qui montre bien qu'il y a un mode particulier, qu'il y ait quelque chose de semblable, une justice semblable. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de choses semblables, mais il y a un mode spécial. Autrement dit, je pose le problème autrement. Vous êtes un excellent religieux. Et vous faites en même temps des élections politiques et vous vous affirmez comme... Et vous n'êtes pas du tout un excellent homme politique. Parce qu'au fond, vous continuez de garder en homme politique votre regard d'homme, de père de famille, de mère de famille. Oui. Et le point de vue politique est uniquement la communauté familiale qui prend une nouvelle dimension. Mais elle garde les mêmes principes. La finalité change. Si la finalité change, nécessairement, la vertu va changer. Mais d'autre part, quelqu'un qui est un excellent père de famille, une très grande prudence, il se présente aux élections, tu veux qu'il est présenté comme une excellente personne par rapport à le point de vue humain. Ça l'aide à mieux voir au point de vue politique. Mais c'est différent. Ça demande la souplesse, la prudence demande une très grande souplesse. Parce que la prudence varie. Oui. Vous n'êtes pas prudent de la même façon à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 70 ans. C'est la vertu qui change le plus. Votre vertu de tempérance est la même, votre vertu de force est la même, mais la vertu se présentera très différente. Parce que les circonstances ont changé, et puis parce que aussi.
Père, est-ce qu'on peut dire que la vertu de prudence personnelle et celle politique ont la même nature et qu'il y a juste un exercice qui change ?
Là non, il y a un mode qui change. Oui.
Mais est-ce que c'est la même nature ?
Oui, je crois que c'est la même nature. La vertu de prudence, au point de départ, vous voyez, sont des modalités différentes de la jurisprudence. Alors, la même nature, ça dépend ce qu'on entend par nature. Si vous employez nature dans le sens l'engagement en vue de la finalité, c'est différent. Si on entendait nature comme les structures profondes entre ces deux prudences, c'est les mêmes prudences. Il faut faire attention, ces questions-là sont des questions auxquelles vous répondez. Il faut faire attention de savoir qu'est-ce qu'on dit exactement. Même nature, c'est-à-dire même finalité. Non, c'est pas la même finalité. Alors, comment voulez-vous que la vertu de politique, vertu de l'égard de la politique familiale et l'égard de la politique commune, les finalités sont différentes. Donc, l'exercice sont différents de ces prudences. Mais il y a un fond commun.
Mon père, une dernière petite question. On peut comprendre la recherche de vérité et l'amour non seulement comme des poyanti et des poses de l'être en acte et de l'être substantiel. C'est plus difficile quand il s'agit de la prudence et de l'art. Pourriez-vous nous permettre de découvrir en quoi la prudence et l'art, en tant que dimension de la personne humaine, dans une analyse métaphysique, ont leur fondement dans la substance et l'acte?
Oui. Mais c'est toute notre vie, ça. Dès que nous sommes dans la finalité et que nous regardons la finalité humaine, la finalité humaine est ou la contemplation ou l'activité civile. Ces activités-là change complètement avec la contemplation. Et donc, on veut dire, même si on les appelle les mêmes vertus, elles ont une manière différente de s'exercer. Et vouloir être un très bon citoyen en étant un excellent père de famille et en restant uniquement père de famille, vous n'entrerez pas dans ce qu'il y a de particulier par être un bon citoyen. Les vertus changent avec leur finalité. Ça, c'est évident, c'est dans notre pratique. Et c'est leur finalité qui les fait comprendre ce qu'elles sont de propre. Et on doit aller jusqu'au bout pour justement voir vraiment ce que deviennent ces vertus en tenant ces vertus de force personnelle, ces vertus de force comme citoyen et ces vertus de force engagées dans une finalité commune. Est-ce que nous faisons automatiquement ça? C'est l'analogie. La ratio commune demeure, mais le mode est différent. crois que là, il faut être extrêmement lucide et comprendre ce que nous faisons quand nous étudions la personne. Nous étudions ce qu'il y a de propre à cette prudence en vue de former un citoyen. Un bon père de famille.
Mon père, par rapport à la prudence et l'art, il y a une autre question. Enfin, nous avons vu l'amour et la recherche de la vérité comme étant des dimensions de l'être en acte et aussi de la personne humaine. On voudrait que vous puissiez nous éclairer par rapport à l'art et la prudence. On voudrait savoir comment est-ce que l'art et la prudence s'enracinent dans la métaphysique de la personne.
Oui. La prudence et l'art, ce sont deux vertus que nous devons acquérir parce que elles sont concrètement dans notre vie. La prudence, on vient le voir, et l'art vient s'ajouter à la prudence pour y mettre une efficacité nouvelle. L'art, c'est avant tout une efficacité nouvelle. La prudence, elle a des intentions très pures. Elle purifie nos intentions pour que nous recherchions avant tout la personne humaine, les personnes humaines. Ce sont des relations de personnes. L'art, ces relations de personnes sont toujours médiatisées par l'œuvre. Vous ne pouvez pas vis-à-vis d'un artiste, vis-à-vis d'un homme artiste, dire « je te connais au point de vue moral, tu ne me joueras pas de mauvais tour, tu es consciencieux, et alors je te fais confiance. » La confiance que vous faites un homme prudent et la confiance que vous faites à un artiste ne sont pas les mêmes. À l'artiste, ce que vous lui demandez, c'est de réaliser son œuvre parfaitement. Et vous avez confiance dans l'artiste, sachant qu'il exécute, qu'il réalise parfaitement son œuvre. Or, ce qui vient s'ajouter, l'œuvre, ne touche pas directement la personne. Parce que justement, l'œuvre, le fruit de l'art, n'est pas directement un effet vis-à-vis de la finalité. Ça peut très bien être un effet très différent de ma finalité habituelle. Et je tiens compte de cet effet rechercher mon bonheur. Il y a une place plus ou moins grande. Et je dois, vis-à-vis de l'homme prudent, je dois être prudent vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de l'artiste, est-ce qu'on est prudent vis-à-vis d'un artiste ? vis-à-vis d'un artiste, il faut qu'on comprenne l'œuvre qu'il fait. Qu'on comprenne que l'œuvre qu'il fait est quelque chose qui agrandit ma personne, mais qui ne l'agrandit pas directement, mais qui l'agrandit en une possibilité de développement, en une possibilité de grandir. Pas direct, mais cependant l'art est quand même une dimension nécessaire à la personne humaine à cause de mon corps. Parce qu'à cause de mon corps, je me manifeste tel. Alors, là, quelque chose de spécial. Si je n'avais pas de corps, je n'aurais pas d'art. C'est ce qui se passe pour les anges. Les anges sont des intellectuels parfaits, mais ils ne sont pas artistes. Ils ont beaucoup de peine à comprendre les artistes. Les anges. Comme ils sont saints, ils arrivent à comprendre. Mais ils arrivent à comprendre en saisissant que le point de vue artistique, il y a l'œuvre entre deux. Et c'est par rapport à l'œuvre que l'artiste peut plus ou moins que la prudence doit tenir compte que l'artiste a donc une influence communautaire qui dépasse l'individu et qui permet cette influence communautaire de réaliser certaines choses plus immédiatement. C'est le point de vue d'une extension, d'une pénétration plus grande d'une œuvre réalisée. Et le point de vue artistique est nécessaire à la personne, au développement à la personne, d'une façon différente de la prudence. Même d'une certaine manière, ça s'oppose. Il y a des exigences prudentielles qui sont très difficilement comprises par les exigences de l'art. Et les exigences de l'art nous font admettre cette différence de certaines choses qu'on pourrait dire. L'art met une extension à la personne. L'art n'ajoute pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. C'est une gloire. C'est une dimension plus grande d'extension. Mais on doit s'en servir au point de vue finalité. On doit s'en servir pour pouvoir aller plus loin. Mais cette dimension d'aller plus loin, d'atteindre plus d'onde si elle n'est pas utilisée. Et pas immédiatement finalisé. C'est pour ça que c'est très curieux. Elle a quelque chose qui est très particulier, qui n'est ni politique, ni immédiatement personnel. Qui est le point de vue individu de la personne qui se développe et qui permet à la personne d'avoir une influence plus grande grâce au point de vue artistique. Alors, ça varie énormément avec le climat dans lequel on est. Et au Moyen-Âge, jouer ce rôle, les chanteurs jouaient ce rôle très important. Puis ça a disparu et ça revient. C'est très curieux à voir les vagues particulières dans lesquelles le point de vue artistique pénètre. Et alors, comment l'art pénètre-t-il au point de vue de la personne? C'est le problème. Nous, l'art n'est pas immédiatement un développement personnel. Il est immédiatement. C'est-à-dire, il permet à l'individu d'avoir un champ d'action beaucoup plus grand. Et donc, ça lui permet, par le fait même, un développement plus parfait, plus grand de la personne. Mais c'est indirect. S'il n'y avait que l'artiste, et uniquement l'artiste, ce développement ne se ferait pas. Parce que cet art ne serait pas si humain. Si cet art est très beaucoup plus humain, il touche la prudence. Et alors, il peut devenir quelque chose de très important. Et ça nous fait tout de suite toucher à la dernière dimension, le point de vue du corps. Ça, on va voir ça la fois prochaine.